Merci bien. Donc, on n'aura pas effectivement un changement, on aura un changement, mais en même temps, ce sera pour mieux comprendre éventuellement le monde arabe d'aujourd'hui et plus généralement, je dirais, la cité, y compris dans nos sociétés démocratiques. Je commencerai par trois points avant d'entrer au vif du sujet. Le premier point, c'est le contexte dans lequel j'ai écrit, effectivement, j'ai publié en 2014 un ouvrage qui s'appelle « Le luxe et la violence, contestation et domination et contestation » chez Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun, un penseur qui est mort en 1406. Alors, pourquoi cet ouvrage? La raison pour laquelle j'ai édité cet ouvrage, j'ai publié cet ouvrage, c'est qu'avec un collègue, ami de longue date, hein, que Daniel Rivet qui ici connaît très bien, Gabriel Martinez-Gron, on était très intéressés par ce penseur Ibn Khaldoun, mais surtout, le Moyen-Orient de 2011-2012 nous inquiétait. On se posait la question, pourquoi les sociétés n'ont plus la capacité de résister? Et ce manque de résistance, en quelque sorte, s'observait déjà très clairement dans le cas du Mali, après le renversement de Kadhafi en Libye. Des zones entières étaient sorties dans l'Afrique du Nord, dans l'Afrique, disons, subsaharienne, du contrôle de l'État. Et une organisation où quelques centaines d'islamistes étaient parvenus à conquérir des villes comme Kidal et Tombouctou, sans résistance aucune. Et la question qu'on se posait, pourquoi les sociétés ne résistent pas? Pourquoi des villes, parfois, qui comprennent des dizaines de milliers de une population assez nombreuse, des milliers d'hommes armés, ne résistent pas? Et pourquoi des acteurs qui viennent de nulle part, quelques centaines de djihadistes, parviennent à conquérir des villes entières? Et il nous paraissait très clairement qu'Ibn Khaldoun nous apportait quelques réponses à cette question-là. Et partant, on a organisé un séminaire qui a duré 4 ans. Le résultat de ce séminaire a été un double ouvrage. Gabriel Martinez-Gros a écrit un ouvrage qui s'appelle « Une brève histoire des empires, comment ils surgissent, comment ils s'effondrent, pourquoi effectivement un nouvel État émerge et pourquoi un nouvel État peut s'effondrer si rapidement. » Et mon ouvrage a porté beaucoup plus sur la question de la violence, donc « Le luxe et la violence ». Domination et contestation chez Ibn Khaldoun. Le pari que moi j'avais fait dans cet ouvrage et qui sera mon pari aujourd'hui et qui a été développé aussi dans un autre texte paru dans la revue Esprit en janvier, c'est de partir d'Ibn Khaldoun, mais en même temps aussi de brutaliser Ibn Khaldoun, de penser avec Ibn Khaldoun et de pousser Ibn Khaldoun vers des horizons que sans doute lui, il n'aurait jamais voulu aller, voire qu'il aurait condamné. Donc, il y a un principe à la fois de restitution, de fidélité, de loyauté, et de l'autre côté, un principe de trahison. Loyauté, parce que je ne peux absolument pas oublier qu'Ibn Khaldoun a été le maghrébin du XIVe siècle, il faisait partie de l'establishment religieux, il a été au service de plusieurs princes qu'il a trahi d'ailleurs allègrement, il a connu le monde arabe de l'époque, il a connu l'effondrement du monde arabe qui rassemble d'ailleurs au phénomène qu'on observe aujourd'hui. Donc je me dois restituer Ibn Khaldoun dans son contexte, mais en même temps je dois aussi trahir Ibn Khaldoun, le brutaliser pour penser mon monde aujourd'hui. Ce n'est pas uniquement le cas d'Ibn Khaldoun. Si je prends aujourd'hui Weber, Durkheim, Adorno, je suis obligé de faire la même démarche, d'être d'un côté effectivement d'être totalement loyal et de l'autre côté les brutaliser pour pouvoir les utiliser dans mon monde. Et donc, je partirai dans cette intervention constamment de cette double exigence, hein, donc restituer Ibn Khaldoun, voir qu'est-ce que je peux tirer de ses explications, et en même temps, voyager avec Ibn Khaldoun là où il ne veut pas. Une fois ce premier point établi, je souhaiterais maintenant dire en deux ou trois mots qu'est-ce qu'Ibn Khaldoun disait. Pour ceux qui ne connaissent pas, je suis désolé pour ceux qui sont familiers avec l'œuvre d'Ibn Khaldoun, mais je vais être bref et j'essaierai quand même d'être original, même si je vais être dans le résumé. Un premier point qu'on peut retenir d'Ibn Khaldoun, c'est que pour pouvoir réussir, une entreprise de construction étatique doit disposer de deux ressources. La première de ces ressources s'appelle Asabiya. La Asabiya, c'est la solidarité de groupe. C'est une tension qui habite le groupe. C'est une tension qui habite un groupe rustique, aux ressources rustiques, qui n'a pas eu la capacité de se développer, de se raffiner, qui est un groupe égalitaire, dont tous les membres ont accès aux ressources de la violence pour pouvoir se protéger, parce qu'un tel groupe n'a pas la capacité, n'a pas les moyens d'avoir une force armée propre. Donc un groupe égalitaire, mais un groupe néanmoins déjà différencié, parce qu'il a un primus inter pares. Et cette solidarité particulariste permet au groupe de disposer d'une cohésion et de transformer cette cohésion en une ressource de conquête de pouvoir. En une ressource d'abord de contestation d'un pouvoir existant et ensuite une ressource de conquête de pouvoir. Vous voyez qu'on est là à un niveau parfaitement anthropologique. Il s'agit d'une ressource infrapolitique et non pas politique proprement dite. Mais pour Ibn Khaldoun, il faut aussi une deuxième ressource qui s'appelle cette fois-ci la dawa, donc l'appel. Originellement, l'appel à reconnaître l'unicité de Dieu et la prophétie de Mohammed. Mais appel, par extension, qui peut être aussi toute idéologie. Idéologie nationaliste, idéologie de droite, idéologie de gauche. Et cet appel doit être de nature universelle. Autant l'élément de base de la Asabiya, pour la Asabiya, est particulariste, autant l'appel doit s'adresser à l'univers dans sa totalité, proposer un nouveau type de société et radicaliser le monde. C'est par l'appel, par la sacralisation de l'appel, que vous radicalisez le monde. Et la dawa religieuse est par définition sacrée, est sacralisée, mais vous avez aussi d'autres types de dawa, dawa nationale, dawa, tout ce que vous pouvez imaginer, idéologique, qui peuvent être sacralisées. Baudrillard disait qu'on peut radicaliser le monde par le sacrifice, et je crois que la dawa, c'est une façon de radicaliser le monde. Or, le problème, c'est que la dawa, c'est une donnée suprapolitique. Ce n'est pas du tout une donnée anthropologique, c'est une donnée même pas terrestre au sens propre du terme, c'est une donnée suprapolitique, mais pour Ibn Khaldoun, précisément, il faudrait qu'il y ait la combinaison de l'infrapolitique et de suprapolitique pour que la politique soit possible. La politique ne se nourrit pas d'elle-même, mais se nourrit de deux niveaux qui lui sont extérieurs, l'infra et la supra. Et parce qu'il y a ces deux niveaux, que la conquête de pouvoir devient possible, lorsque vous êtes un groupe doté d'une cohésion et vous vous lancez à la conquête de pouvoir, en plus vous avez une idéologie, il est évident que vous quintuplez le potentiel de radicalité de votre groupe. Et dans la continuité, je dirais que lorsque vous avez trop de Asabiya militarisées, elles se paralysent les unes et les autres, et dans ce cas-là, l'idéologie l'emporte, la dawa l'emporte, et on l'a vu dans le cas, par exemple, de l'Afghanistan de 1988-89. En 1988-89, l'Union soviétique est vaincue, excusez de peu, la deuxième puissance mondiale. Mais de l'autre côté, les forces qui ont vaincu l'Union soviétique sont parfaitement paralysées. Chaque seigneur de guerre contrôle un territoire. Il n'y a pas la capacité de former un bloc unitaire. Et qu'est-ce qui se passe ? Émergent les talibans, 32 membres, pas plus, en 1990, en 4 ans, ils ont emporté la mise, et la capitale avec. Et lorsque vous regardez pourquoi l'État islamique a réussi avec autant de facilité à s'emparer de très vaste territoire, il faudrait se rappeler tout simplement qu'en 2013, en Syrie, il y avait 1300 milices. Lorsque vous avez une telle fragmentation, 1300 milices qui se paralysent, qui fractionnent le temps et l'espace en 1200 temps et 1200 fractions, vous comprenez parfaitement pourquoi une force qui a la dawa, l'idéologie, peut l'imposer. Un deuxième point qui est extrêmement important dans le cas d'Ibn Khaldoun. là aussi, je suis encore dans les préliminaires. Mais ces préliminaires me paraissent quand même nécessaires. C'est que pour Ibn Khaldoun, la société, l'État et la civilisation se construisent et se déconstruisent comme composantes d'un même processus. Pour pouvoir avoir la civilisation, et pour Ibn Khaldoun, le terme de civilisation est utilisé comme les hommes de la lumière l'auraient utilisé, il n'y a pas de civilisation nationale, la civilisation est universelle par excellence. Pour pouvoir avoir une civilisation, pour Ibn Khaldoun, il faudrait se constituer en société, et pour pouvoir se constituer en société, il faudrait arriver à une forme d'organisation qui s'appelle l'État. Donc, vous ne pouvez absolument pas séparer la cité, la société, l'État, forme d'organisation politique, et la civilisation, le niveau de progrès auquel toute société aspire. Et pour Ibn Khaldoun, nous avons des cycles de formation de la société, de l'État et de civilisation, et des cycles de leur effondrement. Ce principe de cycle, de l'histoire cyclique, n'est pas d'Ibn Khaldoun. Au contraire, Christophe Pomian, qui est un très grand historien, a montré que ce principe cyclique était aristotélicien et que la philosophie politique, la philosophie existentielle de l'islam, en quelque sorte, avait déjà adopté cette lecture cyclique. Et Makram Abbes n'est pas là, mais il a travaillé aussi sur ce phénomène cyclique. Le grand juriste islamique de la fin du 10e siècle, Al-Mawardi, propose une lecture parfaitement cyclique de l'histoire. Autrement dit, les États naissent, se consolident, entrent en crise, s'effondrent et laissent place à un autre État. De ce point de vue-là, il n'y a pas, disons, d'exception d'Ibn Khaldoun. Et en même temps, Ibn Khaldoun nous apporte des éléments qui sont totalement absents de la philosophie aristotélicienne. Le premier élément qu'il nous apporte, c'est que la qualité du monde change au cours de chaque cycle successif. De nouvelles générations émergent, de nouvelles façons de voir le monde émergent, de nouvelles lectures sont possibles. Et pour Ibn Khaldoun, chaque génération dure 40 ans, et si vous prenez les 3 siècles, 120 ans, en 120 ans, le monde change dans sa totalité. Et Ibn Khaldoun se pose la question suivante, pourquoi donc les Hébreux se sont perdus pendant 40 ans en cherchant la Terre Sainte alors qu'ils étaient dans un mouchoir de poche? Même sans avoir la technologie d'aujourd'hui, ils devaient être en mesure de trouver la terre promise. Et pour Ibn Khaldoun, la raison est évidente. Il fallait que le dernier Hébreu qui a connu l'esclavage disparaisse pour que les Hébreux entrent en terre promise en tant que peuple entièrement libre. Qu'ils investissent une terre libre en tant que peuple entièrement libre. Donc, lorsqu'Ibn Khaldoun parle d'une histoire cyclique, il ne parle pas du tout d'une histoire qui se répète. En deuxième lieu, Ibn Khaldoun dépasse le niveau de lecture aristotélicienne parce que pour lui, la question principale, c'est de comprendre les rapports de force, les rapports de pouvoir qui constituent le pouvoir à son origine, à sa naissance, lors de sa consolidation et lors de son effondrement. En ce sens-là, il n'est pas exclusivement dans une lecture cyclique. D'autant plus qu'il sait qu'on n'entre pas dans un cycle de manière totalement aléatoire. Pour lui, les acteurs qui entrent dans un cycle de construction de pouvoir sont des acteurs qui appartiennent soit à des très grandes tribus, soit à des groupes ethniques. Ibn Khaldoun a une conscience mais extrêmement aiguë de l'ethnicité. quand je lis certains textes que le nationalisme, selon lesquels le nationalisme n'est qu'un phénomène très récent, peut-être que le nationalisme en tant que tel, mais lorsque vous lisez Ibn Khaldoun, mais il a un souci d'apothécaire pour savoir qui est berbère, qui est arabe, qui est turc, qui est kurde. Car pour lui, on investit le temps historique et l'espace historique en tant que groupe ethnique ou du moins un très grand groupe tribal. Et lorsque on entre dans le temps et dans l'espace, les deux sont corrélés chez Ibn Khaldoun de manière très claire. On marque le temps et l'espace de ceux de ce groupe ethnique en même temps. Et lorsqu'on quitte le temps et l'espace, on est perdant. On est perdant parce qu'on sort de la civilisation pour entrer dans la décivilisation. Et pour Ibn Khaldoun, par exemple, il est clair que ce ne sont pas les barbares qui sont des décivilisés, mais ceux qui ont été civilisés et qui sont sortis du temps et de l'espace historique et qui sont sortis aussi de la civilisation en tant que telle. Je ne ferai pas de citation ici, car je crois que si on citait, vraiment on faisait des citations de Ibn Khaldoun par rapport à certains groupes arabes, ça tomberait sur le coup de la loi aujourd'hui, mais il dit effectivement, voilà, lorsqu'on quitte la civilisation, on devient des sauvages. Tel ou tel groupe sont devenus sauvages pour avoir été civilisés par le passé. Et là, c'est des types de lectures qui sont, à mon avis, inédits, qui viennent d'Ibn Khaldoun. Et de la même manière, pour Ibn Khaldoun, nous avons dans l'histoire deux types d'événements, des événements qui relèvent de l'accidentel. Un tel roi meurt, ou il y a, est renversé par son frère. Voilà, c'est un événement. Mais de l'autre côté pour lui, il y a d'autres événements qui cette fois-ci relèvent de l'essence de l'histoire. Et ce sont ces événements-là qui relèvent de l'essence de l'histoire, qui sont des événements qui se répètent parce que là, on est en face des lois. Et Ibn Khaldoun est très clair, il faut établir, relever les lois qui gèrent l'histoire humaine sans que les humains en soient conscients. Vous êtes là dans des explications du 19e siècle. Hein, c'est Hegel, c'est Marx, c'est la naissance de la sociologie. Et dans cette perspective, pour Ibn Khaldoun, la distance que le prince prend par rapport à sa population au bout de quelques années de pouvoir relève de l'essence du pouvoir. La haine et la vengeance chez Ibn Khaldoun ne sont pas des traits psychologiques qui marquent telle ou telle personne, mais ce sont des facteurs qui relèvent de l'essence même du pouvoir. Il décrit une politique fiscale et il dit normalement, un État n'a pas besoin de taxer sa population. Pourquoi ? Parce qu'il a des ressources. Au début, ses besoins sont très limités. Il a des ressources. Et donc, normalement, ça devait aller. Sauf qu'après, l'État s'enrichit, le luxe s'impose, la violence s'impose, la guerre s'impose. Il faut financer tout ceci. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe à une politique de taxation. Et puis après, les taxes ne suffisent pas. D'autant plus qu'il peut y avoir des crises économiques. Qu'est-ce qu'on fait ? On impose sa population. Après, l'impôt ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on diminue les salaires de ses fonctionnaires. Aucune comparaison avec le monde actuel. Donc l'État devient prédateur, cette fois-ci, auprès de qui ? Auprès de ses fonctionnaires. Et cela ne suffit pas. Qu'est-ce qu'on fait ? L'État devient prédateur. Donc vous voyez, pour Ibn Khaldoun, tout ceci, ça relève de la loi même de l'État, ça relève de l'essence, et ça finit par structurer l'histoire, donner sens à l'histoire humaine. Et l'effondrement de l'État est aussi lié à la fois à la réaction que cela suscite et aux dépenses qui n'élèvent les impôts et les taxes, ni même la prédation, ne sont en mesure de couvrir. Ibn Khaldoun insiste beaucoup sur la psychologie des gens, mais non pas pour faire la psychologie psychologisante. Au contraire, pour Ibn Khaldoun, la psychologie des hommes de pouvoir, à l'époque il y a très peu de formes de pouvoir, mais il y en a tout de même, c'est comme les portraits psychologiques qui tracent Tocqueville, Marx et Trotsky. Trois auteurs n'ont jamais été dans très psychologisant, mais on a l'impression qu'effectivement pour Ibn Khaldoun, le pouvoir ne perd pas parce que le roi est idiot, ou parce que tel ou tel dissident a une volonté de faire. Au contraire, pour lui, le roi devient idiot comme en conformité avec une essence même de l'histoire. L'idiotie, la bêtise, la paralysie fait partie de l'horizon de l'État. Et de l'autre côté, tel ou tel révolté ou rebelle ne gagne pas le pouvoir parce qu'il est vraiment d'une intelligence absolument exceptionnelle ou il a une volonté de faire, mais au contraire, il acquiert l'expérience et l'intelligence avec, dans la bataille et dans le combat. Donc je crois qu'effectivement pour Ibn Khaldoun, cela est absolument évident. La psychologie fait partie des structures de pouvoir. Donc après avoir fait ce deuxième point d'introduction, maintenant je peux entrer dans le sujet. Comment on peut utiliser Ibn Khaldoun pour comprendre notre monde moyen-oriental arabe, mais aussi notre monde d'une manière générale. Chez Ibn Khaldoun, il n'y a pas de réflexion sur la guerre, une réflexion spécifique. Par contre, il y a une réflexion extrêmement riche sur la violence. Et pour Ibn Khaldoun, il est clair que la violence est un capital. Un capital au sens vraiment bourdieu de terme, autrement dit, quelque chose que vous pouvez convertir en ressource de pouvoir. Et aux yeux d'Ibn Khaldoun, la violence n'est ni une forme d'anomie, ni un résidu. L'anomie, vous connaissez le terme, c'est le terme que Durkheim a utilisé pour définir le suicide dans notre société. Et résidu, c'est un concept qu'a utilisé le grand sociologue du début du XXe siècle, Vilfredo Pareto. Et pour eux, effectivement, l'histoire avait un sens, une visée téléologique, un horizon téléologique, hors des éléments du passé ou des éléments qui n'entraient pas dans la régularité du monde, pouvaient se traduire soit par des formes anomiques, soit par des expressions des résidus. Or, pour Ibn Khaldoun, la violence n'est ni une anomie, ni un résidu. La violence est au cœur de la société, au cœur de l'histoire. On ne peut absolument pas envisager l'histoire sans la violence. Et l'histoire est l'histoire des groupes qui sont capables de produire de la violence. Mais cela ne suffit pas, car n'importe qui peut produire de la violence. Il s'agit des groupes qui sont capables de transformer leur violence en ressource de conquête de pouvoir. Et c'est là qu'effectivement, pour Ibn Khaldoun, la notion de pouvoir, de violence, devient quelque chose de central. Et Ibn Khaldoun, ce faisant, nous permet de comprendre une dialectique entre le luxe et la violence, car la violence émerge comme une réponse au luxe. Et pour Ibn Khaldoun, une société civilisée est une société qui dispose de luxe. Une société qui se passe de luxe n'est pas une société civilisée. Et c'est vrai que pour Ibn Khaldoun, si Ibn Khaldoun était aujourd'hui ici, il aurait dit, cette caméra, l'école normale supérieure, etc., tout ceci, c'est de luxe. C'est de luxe de nos sociétés. Et en même temps, c'est ce luxe qui nous permet d'être société et être civilisation. D'autres auteurs l'ont pensé aussi, dans les années 30-40, Georges Bataille par exemple, dans un ouvrage qui s'appelait La part maudite, disait que finalement, des Aztèques à nos jours, le principal mode de fonctionnement de tout État, c'était de produire de l'excédent à gaspiller. Et le pouvoir se forme précisément par cette capacité de produire de l'excédent, lequel excédent est transformé, gaspillé par des rituels. Ces rituels-là peuvent être des rituels de diplomation, ça pouvait être des rituels sacrificiels chez les Aztèques. Georges Bataille montre combien les Aztèques effectivement dépensaient une fortune pour bien traiter un esclave pendant un an avant de l'abattre. avant de l'immoler, donc le sacrifice, hein, ça peut être, hein, tout ce que vous voulez, mais en dehors de cette capacité de produire du luxe, il n'y a pas de l'être. Mais de l'autre côté, c'est cette même, ce même luxe, ce même excédent, ce même gaspillage qui provoque de la contestation et qui provoque aussi une violence. Et c'est la combinaison de ce rapport dialectique, en quelque sorte, entre ce que la civilisation est, mais qui lui permet d'être civilisation, et la contestation que la civilisation produit par ce fait même d'être civilisation, autrement dit capable de gaspiller, qui explique pour Ibn Khaldoun la dialectique entre le luxe et la violence, entre la conformité, la normalité d'une civilisation et les contestations dont elle fait objet. Et vous voyez là les types de questions qu'Ibn Khaldoun pose, ont été posées par Georges Bataille, mais pas par les sciences sociales. Une grande partie des sciences sociales, on était totalement en dehors de ces réflexions au 19e et 20e siècle. Au 19e et 20e siècle, ce qui était apporté, c'était vraiment de comprendre la régularité de notre société, de découvrir les lois de notre société qui devaient nous apporter, nous amener vers un horizon téléologique, alors que chez Ibn Khaldoun, ces types de questions qui sont l'essence du pouvoir expliquent aussi pourquoi l'histoire peut être cyclique, pourquoi on peut ne pas être dans la téléologie. Je reviendrai sur ça, parce que j'aurais quand même quelques critiques à faire aussi par rapport à cette démarche, mais au moins, là, il y a un élément de prudence extrême qui nous invite aussi à la prudence par rapport à notre propre cité démocratique, civilisée, surnourrie, surdouée, capable effectivement de se déployer dans plein de domaines. Alors, pour Ibn Khaldoun, la violence est quelque chose qui n'est pas nécessairement condamnable. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'Ibn Khaldoun fait partie de l'establishment religieux. Or, comme vous savez, entre le 7e et le 10e siècle, la doctrine d'État de l'Islam qui a été élaborée au cours de cette période interdit tout acte de révolte contre l'État. Contrairement à ce qu'on pense, l'islam, en tout cas officiel, n'est pas une religion de révolte, mais au contraire une religion de la tyrannie et de l'obéissance. Et donc, il est évident qu'Ibn Khaldoun ne va pas prôner la violence contre le pouvoir établi. D'autant plus qu'il en est garant, en tant que juge religieux. De l'autre côté, la lecture qu'il livre de la violence est une lecture absolument froide. Ce n'est pas une lecture qui condamne, c'est une lecture qui prend acte. La violence existe. Et puisqu'il en prend acte, après il essaye de voir quel type de violence peut être une violence positive, une violence constructive, constructrice d'un nouveau type de pouvoir, une violence qui régénère le pouvoir, la société et la civilisation, et d'autres qui éventuellement détruisent la civilisation, la société, sans permettre leur régénération. Et pour Ibn Khaldoun, la violence est d'abord la capacité de gagner de l'autonomie. Capacité de faire système, de se fixer par elle-même les nouvelles règles, de contester les règles anciennes pour pouvoir éventuellement les reproduire à l'identique une fois qu'on occupe le pouvoir. Pour Ibn Khaldoun, la violence est d'abord une affaire de subjectivité, le reflux de la civilisation, telle qu'elle se donne à voir, c'est-à-dire par son gaspillage, par la corruption qui la marque. Et puis, la violence est une stratégie, car pour Ibn Khaldoun, autant il adore les gagnants, ceux qui ont gagné dans l'histoire, autant il a l'horreur des perdants. Et il dit effectivement à plusieurs reprises, si vous utilisez la violence alors que le contexte n'y est pas, ne vous permet pas de réussir, tant pis pour vous. Si on vous écrase comme des mouches, mais tant pis pour vous. Il est vraiment sans pitié. Et de l'autre côté, il s'est dit aussi qu'une violence ne peut faire sens que si elle arrive à son heure. Il faudrait qu'une violence arrive en son temps, ni avant, ni après. Et là aussi, il y a quelque chose de temps filial, car pour Ibn Khaldoun, pour que la violence puisse porter ses fruits, il faudrait que le système présent soit déjà en train de s'effondrer sans être conscient des contradictions de fond structurelles qui le minent de l'intérieur. Pour Ibn Khaldoun, c'est les puissances, les pouvoirs qui tombent, et non pas les rebelles qui font tomber les pouvoirs. La crise est déjà la crise de l'ancien système, de l'ancien régime, comme dirait Tocqueville, avant de devenir une crise accélérée par l'action révolutionnaire ou par l'action violente. Et attendre son heure signifie aussi d'attaquer le pouvoir présent heure par heure, millimètre carré par millimètre carré. Autrement dit, avant de vous lancer, avant de gagner votre rythme maximal, vous devez mener une guerre irrégulière contre l'État. Vous devez mener une guerre prolongée. Le terme sont utilisés par Ibn Khaldoun. Vous avez l'impression d'être, d'être en train de lire Mao ou Ho Chi Minh, mais dans les faits, je veux dire, voilà, vous avez cette technique de guerrier. Donc, attention leur, se livrer à une guerre prolongée, et se livrer à une guerre prolongée pour gagner le pouvoir heure par heure. Vous gagnez chaque heure que vous survivez en le transformant en un capital. Et dans un deuxième temps, vous établissez une corrélation entre l'heure et l'espace, vous conquérez le pouvoir centimètre carré par centimètre carré. Et vous convertissez les heures en espace. Bernard Lepetit, l'historien qui a disparu il y a pas mal de temps, disait que l'espace était le temps rigidifié. Et on a l'impression qu'effectivement, dans le cas d'Ibn Khaldoun aussi, l'espace est le temps rigidifié. Et une fois que vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez bousculer l'horloge de l'État, l'horloge du pouvoir présent, et dire l'heure, dire que vous êtes le maître de l'heure. Ibn Khaldoun n'est absolument pas messianique. Il a écrit des pages sublimes pour montrer pourquoi le mahdisme ne faisait pas sens, mais lui-même, il n'est pas un mahdiste, un messianique, mais il dit très clairement que lorsque vous arrivez à devenir un candidat sérieux pour conquérir le pouvoir, vous devenez le maître de l'heure, donc vous dites l'heure, autrement dit, le changement d'air. Et on voit que pour Ibn Khaldoun, la violence est d'abord un capital avant de devenir l'instrument de construction. Et pour pouvoir réussir, pour pouvoir être utile, ce capital doit détruire les capitaux existants. Le pouvoir existant, le temps existant, mais aussi détruire le capital âge, le fait que vous soyez en situation de contestation ne sert strictement à rien. Vous pouvez avoir 30 ou 40 ans et en même temps vous imposer comme le nouveau maître qui dit l'heure. Vous détruisez les savoirs disponibles, car lorsque vous êtes dans la contestation, vous avez besoin d'un Coran réduit à 10 versets. Aujourd'hui, beaucoup d'oulémas dans le monde musulman disent « mais enfin, l'État islamique ne connaît même pas le Coran ». Bien sûr que l'État islamique ne connaît même pas le Coran, mais l'État islamique ne va pas passer son temps à lire les 10 volumes sur le point-virgule dans le Coran. Il n'y a pas de point-virgule dans le Coran. Il ne pouvait pas y avoir. Mais il y a des lettres mortes, des lettres veuves, etc. Tout ceci est le luxe. On peut le faire à l'école normale supérieure ou à l'Azhar. Lorsque vous vous lancez à la conquête du pouvoir, vous avez besoin d'un Coran qui tient sur une page. Donc vous devez détruire les savoirs disponibles pour substituer à ces savoirs disponibles, raffiner un savoir directement lié à l'action et à l'axiologie, un savoir sacrificiel. C'est pour ça que la contestation de gauche pouvait tout à fait réussir à produire de l'action. Alors que quand vous êtes l'Institut de marxisme-léninisme à Saint-Pétersbourg, à Moscou, vous préférez des longs livres sur les notes de bas de page de Marx. Vous n'êtes pas du tout dans la même logique. Donc vous détruisez l'âge, vous détruisez les savoirs, vous détruisez les notabilités, car le changement de pouvoir, c'est aussi la destruction de notabilités. Vous substituez une catégorie rustique qui viennent d'une contestation égalitaire mais différenciée au cœur du pouvoir. Et cette catégorie rustique va se civiliser, mais avant de se civiliser, doit devenir un agent de la destruction. Et ce n'est que dans la durée que vous restituez, reproduisez les capitaux que vous avez détruits. Une fois que vous devenez pouvoir, eh bien, la Assemblée commence à vous faire peur. Parce que quelqu'un d'autre aussi peut avoir un élément de cohésion. La Dawa vous fait peur. Un Coran réduit à 10 pages, à 10 versets. La violence vous fait peur. Qu'est-ce que vous faites? Une fois que vous êtes au pouvoir, graduellement, vous éliminez ceux qui vous ont accompagné. Vous introduisez le principe d'âge. Vous introduisez le principe de savoir. Vous introduisez le principe de notabilité. Vous vous institutionnalisez. Vous prenez des distances par rapport à la populace, et Ibn Khaldoun a des pages absolument magnifiques sur comment l'institutionnalisation comme processus a lieu. Et on a vu ça dans la plupart des cas, effectivement, qu'on conteste, après chaque destruction de pouvoir, vous avez ce type de phénomène de réinstitutionnalisation. Alors là, je vais m'arrêter là, disons, pour la question de la violence chez Ibn Khaldoun. Maintenant, pour parler un peu de nos jours, mais pour parler aussi de l'impasse ou des impasses d'Ibn Khaldoun. À quoi ça sert de savoir tout ceci? Alors, Ibn Khaldoun dit à plusieurs reprises que normalement, le fait qu'un pouvoir s'effondre, une cité s'effondre, une civilisation s'effondre, c'est pas très grave. Il ne le dit pas comme ça, c'est toujours une tragédie. Mais c'est pas très grave. Pourquoi c'est pas très grave? Parce qu'il y a le principe de régénérescence. Puisqu'on est dans une histoire cyclique. Sauf qu'à plusieurs reprises, il constate aussi qu'en terre d'Afrique du Nord, en terre arabe aussi d'une manière générale, la terre est devenue trop aride pour que la civilisation puisse être régénérée. Et on a l'impression qu'il pense qu'au bout de plusieurs cycles de construction et de destruction de pouvoir, la civilisation devient tout simplement impassible. La terre ne s'y prête plus. On entre dans un processus de décivilisation qui signifie la désintégration totale de la société. Et dans ce cas-là, la civilisation, définie cette fois-ci presque en termes hegeliens, n'a pas d'autre solution que de se chercher une autre terre d'accueil. Et pour Ibn Khaldoun, ainsi, la civilisation peut se déplacer d'une zone à l'autre. Et juste avant sa mort, il regarde du côté des Turcs, plus précisément des Mongols, pour savoir si Tamerlan va être cet acteur qui va régénérer la civilisation. Le problème avec tout ceci, c'est que à un moment donné, Ibn Khaldoun observe, comme beaucoup d'autres par la suite, Elias, Maurice Bloch, qu'il y a un rapport dialectique entre, il y a une dialectique entre de Eros et de Thanatos. Freud a beaucoup insisté sur ça. Et pour Ibn Khaldoun, mais pour Freud aussi, la civilisation, c'est la domestication de l'Eros. L'Eros, c'est pas uniquement, ne relève pas uniquement de la sexualité. L'Eros, c'est la manière de pouvoir contrôler son corps, ses gestes, savoir interagir avec les autres, connaître les règles de bienséance. Après tout, on sait tenir dans la société. Quelqu'un comme Erasme était scandalisé parce que les draps étaient sales et la bière était chaude, alors que la bière ne peut pas être chaude. Donc l'Eros, c'est tout ceci. Et Ibn Khaldoun n'utilise pas bien entendu le terme d'Eros, qu'il ne connaît pas. Tout comme pour Freud, la civilisation n'est possible qu'à condition que l'Eros soit domestiqué. De l'autre côté, lorsque on domestique l'Eros, on ne fait que glorifier le Thanatos, le dieu de la mort, qu'on essaye certes soumettre à certains rituels, mais on reste quand même dans l'éloge de la virilité, on a peur de la dévirilisation, on sacralise la cause, et le métier militaire n'est pas associé à la violence. Et la question qui se pose, Ibn Khaldoun le voit très clairement, c'est qu'à un moment donné, cette domestication, cette ritualisation de Thanatos n'est plus possible. Thanatos peut se libérer, se déchaîner. Et un tel Thanatos, lorsqu'il se déchaîne, détruit aussi tout ce qui vraiment lui fait obstacle. Le Thanatos, est, on chante l'éloge de Thanatos pour que le Thanatos se batte sur le front extérieur, pour son roi, pour son pays, pour sa nation. Or, un Thanatos qui se déchaîne de ses, qui se libère de ses chaînes, ne se bat pas pour son roi, pour son pays ou pour sa nation, mais se bat dans la cité et contre la cité. Et Ibn Khaldoun ne sait pas comment résoudre ce problème. Quelqu'un comme Machiavel, oui. Machiavel pense que la société doit demeurer armée à la fois pour que son prince ne l'écrase pas, mais aussi pour que les forces qui viennent de l'extérieur ne les détruisent pas. Or, pour Ibn Khaldoun, une telle possibilité n'existe pas. Pour Ibn Khaldoun, la civilisation n'est possible que si la société est totalement soumise. Ibn Khaldoun ne prévoit absolument pas la possibilité d'une société qui soit une société armée, qui se défende elle-même, qui a son mot à dire dans les affaires de la cité, et une telle civilisation n'est pas possible pour Ibn Khaldoun, alors que Machiavel pense que cela est condition même de la cité. Mais de l'autre côté, lorsque une telle potentialité n'existe pas, la cité peut s'effondrer sous les coups de Thanatos, et Ibn Khaldoun n'a pas de solution que l'histoire cyclique à cette menace qui pèse, qui fait peser sur la cité le Thanatos. Ibn Khaldoun, effectivement, ne comprend pas qu'il puisse y avoir le moindre élément de la violence dans la cité. La cité doit être pacifiée, Hannah Arendt pense aussi sur ceci. Mais de l'autre côté, Ibn Khaldoun n'écarte pas l'hypothèse, et cela même constitue un peu une fatalité, n'écarte pas l'hypothèse que le prince se transforme en un tyran. Tout à l'heure, j'ai parlé de la politique des impôts. Au début, le prince n'impose absolument pas. Au contraire, au début, le prince est en contact permanent avec sa population. Le prince a les portes ouvertes, ses portes de palais sont ouvertes. Et puis, au bout de très peu de temps, le prince devient un tyran. Ibn Khaldoun nous dit, ce n'est pas uniquement ce fait-là, le prince perd sa propre mémoire. Car plus vous êtes dans l'institutionnalisation, plus vous avez la perte de mémoire de votre épisode de fondation. Et du coup, à un moment de crise, le prince peut chanter l'épopée de la fondation, mais n'a plus la capacité de reproduire l'expérience. Mais pour Ibn Khaldoun, c'est encore pire que cela, la population n'a plus non plus la capacité de se souvenir de l'épisode de la fondation. En se privant de la capacité de la violence, Ibn Khaldoun, la cité s'est privée aussi de la capacité de résistance, à commencer par contre son propre prince, mais aussi contre les forces périphériques qui n'ont pas perdu leur potentiel de violence. Ibn Khaldoun est très clair de ce point de vue-là aussi, c'est que lorsque le prince pacifie sa société, de l'autre côté, il a quand même besoin de disposer des ressources de violence, et ces ressources de violence viennent des marges de la société. Le prince a besoin des mercenaires qui viennent des marges de la société. Le prince ne va pas s'épuiser à détruire et pacifier la totalité de ses périphéries. Dans les périphéries, restent constamment des poches de résistance et des poches de violence. Et donc, si vous pacifiez la société, comment vous allez défendre la société contre ces périphéries qui restent menaçantes et qui, à tout moment de crise, peuvent investir la cité et vouloir détruire la cité. Pour Ibn Khaldoun, le principal problème, c'est ça, et en même temps, ce problème est insurmontable, et c'est là qu'on voit qu'on entre très clairement dans une logique de fatalisme. La fatalité est là, la destruction de la cité est inévitable. Et il n'y a pas de remède. Il n'y a pas de remède, d'autant plus qu'Ibn Khaldoun utilise énormément de fois le terme de sénilité, et il dit contre la sénilité de l'État, il n'y a pas de remède. Et on est impressionné aussi de voir la citation, les citations qu'il fait de Coran. Les citations qu'il fait de Coran obéissent absolument à une logique, ce n'est pas des citations aléatoires. Soit, effectivement, ces citations montrent que tout ceci a été voulu par Dieu, la chute du régime, la chute de la cité a été voulue par Dieu, la tyrannie d'un régime a été voulue par Dieu, ou soit ce sont des citations qui recommandent aux croyants d'être patients par rapport au malheur qui les frappe. Donc on est dans une lecture totalement, une lecture qui dans la description de pouvoir n'est absolument pas téléologique, une description qui est extrêmement fine, et de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de coup de grâce, la phase finale, la lecture devient téléologique, mais on est dans la téléologie négative, on est dans une sorte de dialectique négative. L'horizon ne peut être que sombre, la chute ne peut être que fatale. Et la question qu'Ibn Khaldoun n'arrive pas à surmonter, c'est aussi une autre question. Et c'est là que je dirais peut-être on peut réfléchir à la fois au monde arabe et à notre propre monde, y compris en Occident. Par rapport au monde arabe, effectivement, on a vu que systématiquement, le Léviathan s'est transformé en Behemoth. Le Léviathan, qui devait surplomber la société, mais utiliser cette position de domination pour mieux protéger la pérennité de la société, c'est la condition même de la légitimité, de la légitimation de Léviathan. Qu'est-ce qu'on fait lorsque le Léviathan se transforme en Behemoth, autrement dit, en ce monstre qui est chargé de détruire le social, détruire la société, ou, Hobbes aurait dit, détruire le Commonwealth. Et que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, que ce soit en Syrie, on voit systématiquement cette transformation de Léviathan en Behemoth. La prédiction khaldounienne se réalise. Le bon roi, ou peut-être même pas le bon roi, le roi devient le tyran, et de la tyrannie, il passe inévitablement à la prédation. Il n'aurait sans doute pas prévoir que cette prédation peut aller avec autant de une telle destruction de la société. De l'autre côté, effectivement, la deuxième menace contre laquelle il nous met en garde, mais il dit qu'il n'y a aucune solution, c'est que la cité arabe a été totalement pacifiée au cours des décennies et des décennies de d'étatisation, et la capacité de cette cité de résister a été réduite à néant. Juste deux exemples. 4 janvier 2014, la ville de Fallujah tombe, 350 000 habitants. Les conquérants ne sont que quelques centaines de djihadistes. 10 juin 2014, la ville de Mossoul, 1 300 000 habitants, 86 000 hommes armés jusqu'aux dents, 500 millions de dollars dans les caisses, tombent sans résistance. La société a perdu sa capacité de résistance et en même temps, les marges de la société n'ont absolument pas perdu leur capacité à elle de s'armer, de s'organiser, d'utiliser une violence, de créer des structures égalitaires mais différenciées et se livrer à l'assaut de la cité qui est déjà effondrée de l'intérieur. La crise est une fois de plus tocquevillienne. La crise est déjà là, la cité ne tombe que parce que la crise est là, mais une fois que la crise est déclenchée, 2000 hommes suffisent à conquérir la ville de Mossoul. Et ne soyons pas trop injustes par rapport à Mossoul. Demain, il y aura 3000 djihadistes autour de Paris, ou pas de djihadistes d'ailleurs, hein, je veux dire, 3000 hommes, droite radicale, je ne sais pas qu'est-ce que je ferai, qu'est-ce qu'on fera. Donc je crois que les questions qu'Ibn Khaldoun pose sont des questions qui concernent aujourd'hui directement le monde arabe, mais qui concernent aussi la cité démocratique. Dans quelle mesure la cité démocratique est aujourd'hui impliquée dans les débats qui la concernent. Bon, c'est vrai que la France n'a jamais été aussi obsédée par la question sécuritaire et a raison, mais quel débat vous avez autour de la sécurité? Est-ce qu'il y a une participation citoyenne, par exemple, à la production de la sécurité au quotidien? Certainement pas. Parce que Ibn Khaldoun aurait dit, mais enfin, pourquoi avoir sa propre participation puisqu'il a le tribunal, la justice, et j'ai perdu la mémoire. Donc, j'ai des institutions, puisque j'ai des institutions, je n'ai plus besoin de la mémoire de la fondation. Il y a une corrélation entre cela, mais qu'est-ce qu'on fait lorsque les institutions ne fonctionnent plus? Eh bien, Ibn Khaldoun dirait, mais c'est trop tard. C'est trop tard, mais de toute façon, il n'y aura pas. De toute façon, ontologiquement, ça n'aurait été que trop tard. Ontologiquement, parce que c'est l'essence même du pouvoir, le fait que Moussoul tombe était une fatalité. Et c'est là qu'on voit effectivement l'impasse d'Ibn Khaldoun, qui n'est pas l'impasse de Machiavel, une fois de plus, qui veut armer la cité. C'est l'impasse d'Ibn Khaldoun, c'est notre impasse aussi, et je crois que toute cette évolution montre aussi pourquoi effectivement dans le monde arabe on est passé et à la tyrannie et après à la transformation de la tyrannie en une sorte de béhémoth et à la naissance de ces marges de violence. Et la question qui se pose aujourd'hui peut-être en Occident, c'est que est-ce qu'on va rester à ce niveau khaldounien ou est-ce qu'on peut penser à la cité sur une base citoyenne, une participation active, sur une base qui reconnaît à la fois le consensus, parce que sans le consensus, je crois qu'on ne peut absolument pas avoir une cité, il n'y aura pas d'identité de la cité, il n'y aura pas de colonne vertébrale de la cité, et le dissensus, ça veut dire la capacité d'être conflictuel, négocier le conflit, institutionnaliser le conflit, participer par le conflit à la cité. Je crois que ce type de questions auxquelles Ibn Khaldoun n'arrive pas à répondre, nous non plus, mais sans doute l'avenir de notre cité passera par les réponses qu'on peut produire à ces questions-là. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.